À l'occasion du Festival international des métiers de montagne qui se tient à Chambéry, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Gilonnier. Fabienne Gilonnier, bonjour.
Bonjour, je suis enseignante
Oui,
de
mais de
l'Université de
compétences.
Savoie-Mont-Blanc,
Ouais.
vice-présidente à l'égalité femmes-hommes ainsi qu'à la culture. Et ça fait plus de 10 ans que je travaille en recherche sur les thématiques liées à la place des filles et des garçons, tout d'abord en course d'orientation, dans les pratiques scolaires, puis sur les terrains de neige en tant que femme entraîneure, et puis sur les dernières années, sur les femmes monitrices de ski et leur insertion dans le milieu professionnel depuis les années 30.
D'accord. À la même table, je reçois Sandrine Jamin-Sanson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notamment l'auteur d'une thèse concernant les modifications vestimentaires des pratiquants et pratiquantes de disciplines sportives. Vous êtes tous les deux intervenus ce matin autour d'un forum concernant la féminisation des métiers de la montagne. Est-ce qu'il y a eu peut-être une époque où il y a des secteurs où ces métiers sont ont été ou sont ou restent strictement réservés aux hommes.
On peut dire que la question de la mixité, donc de la participation des femmes à ces métiers de sportifs de montagne, ne va pas de soi. Prenons par exemple les monitrices de ski sur sur les champs de neige. À partir des années 40, là où la profession s'organise vraiment, en corporation, il y a quelques femmes, hein, une poignée de femmes qui sont des monitrices titulaires du monitorat national, et puis cette compétence-là, ou moins le nombre de diplômés, va rester excessivement faible jusque dans les années 70. On va avoir par contre des monitrices qui vont s'installer sur une profession, sur un titre minoré, qui aura une valeur moindre que le titre de monitrice nationale, et là elles vont arriver en nombre. Donc on voit effectivement que d'une exclusion, puisque ces femmes, au tout départ, dans les années 40, elles ont même été rejetées des écoles de ski, en particulier, je pense à Olga Chapaz, Madame Coutet aussi sur Chamonix, qui ont été travaillées dans des stations, on va dire, plus réceptives au travail des femmes. Puis à partir des années 50, voilà, début des années 60, on va avoir effectivement 200, 300, 400, 500 femmes qui vont arriver sur le marché de l'emploi, mais en tant que jardinière des neiges ou à partir des années 76, monitrice enfant.
Au départ de cet investissement dans la montagne par les sportifs, finalement, c'est une découverte assez récente.
On va dire que la conquête de l'espace montagnard, ou moins, conquérir l'espace montagnard pour un loisir, hein, parce qu'on va dire que l'essentiel de la pratique aujourd'hui se situe ici, date effectivement de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Au départ, on est sur une pratique utilitaire, hein. On va se déplacer dans la montagne grâce à une paire de skis, puis une pratique militaire, hein, puisque les soldats vont pouvoir aussi traverser les espaces de façon, on va dire, plus aisée. Et puis à partir de là, on va avoir l'introduction d'un sport loisir, hein, donc début du XXe siècle. Mais ça, cette histoire, elle a été déjà assez beaucoup racontée, on va dire. Par contre, on peut dire sur l'histoire des femmes, c'est que ces femmes, elles sont dans les milieux préservés, on va dire bourgeois, aristocrates, qui accèdent à les tout premiers à ces champs de neige, elles vont être acceptées au même titre que les hommes. Et elles ne seront pas exclues de la pratique de loisirs, contrairement à certains sports où ça n'ira pas de soi, où les femmes vont avoir accès, pas en même temps que les hommes, il va falloir qu'elles attendent une
D'accord.
certaine année
Dans
pour
le
avoir.
sport, c'est la différenciation est plus marquée.
Disons, au tout départ de la pratique sportive, on peut penser que c'est plutôt un fief de construction de la masculinité, d'une hégémonie masculine, qui va du coup exclure d'entrée les femmes de la pratique. Femmes petites.
L'image de la virilité est en question.
Euh,
la
la construction,
virilis...
la
la construction
construction
de la
de la
virilité.
masculinité, qui va se faire par la pratique sportive et par les valeurs que la pratique sportive va tendre de développer et le renforcement de la puissance musculaire, de la vitesse, de la rapidité, etc.
Qui sont investis dans notamment la compétition.
Voilà, dans la
D'accord.
compétition. Et donc les femmes, d'emblée, elles vont être exclues de cette pensée-là. Et petit à petit, elles vont créer leurs espaces, on va dire, féminins de pratique pour ensuite accéder aux mêmes espaces, dans la même temporalité à la pratique du sport.
Est-ce que cet espace, alors, du sport de montagne, il suit l'évolution de la société? Il vient après que la société, en parallèle, évolue et s'ouvre? Ou est-ce qu'il précède et parfois il sert de moteur à cette évolution?
On peut avoir deux entrées, finalement. On peut penser à un milieu assez avant-gardiste, pratiqué par, on va dire, une élite, sociale, donc qui est progressiste, hein, le Club Alpin Français, qui va développer des pratiques de montagne où femmes et hommes vont avoir une place. Et quand on arrive sur la professionnalisation, donc là, on rentre sur un autre niveau d'analyse, c'est-à-dire que la professionnalisation, c'est-à-dire le marché du travail, suppose une autre organisation sociale. Donc cette organisation sociale, elle va réintégrer des formes de discrimination présentes dans la société, dans la corporation moniteur de ski. Bon, chez les guides de haute montagne, il y a très peu de femmes encore aujourd'hui, mais parce qu'on est encore sur un autre type d'analyse. Mais chez les monitrices de ski, ou moniteurs de ski, on voit que finalement, le phénomène discriminatoire, d'un traitement différentiel des tâches des femmes qui sera dévalorisé, tous les métiers du soin, qui valent moins que des métiers plus techniques, sont réintégrés et installés dans la profession aussi. Voilà, à partir des années 60, quoi. Donc le phénomène, le milieu n'échappe pas, quoi, finalement, à une reproduction.
On répète, en fait, dans ces milieux-là, des représentations qui sont déjà à l'œuvre dans la société.
Voilà, tout à fait. Si en apparence, au début, on a une population très mixte avec plus une tentative plus égalitaire, on voit que là, bah, sur des éléments très ponctuels, la structure est rattrapée, quoi.
Ça recoupe des représentations qui sont dites et qui sont pensées, qui sont des préjugés en fait, mais qui sont pensées comme étant des choses naturelles.
Naturelles, ouais. Donc les métiers on va dire, des fonctions de reproductives sont associés au travail des femmes, donc parce qu'elles ont cette double charge, c'est-à-dire de la reproduction et d'un travail économique, elles ont du coup, on leur attribue moins de valence sur la dimension économique parce qu'elles font les deux en même temps, quoi. Donc elles sont plus tributaires de milieu familial où leur salaire va être plus qu'un salaire d'appoint. Donc on le voit très clairement sur les premières monitrices qui viennent donner un coup de main sur les champs de neige, elles viennent donner un coup de main, voire certaines sont au départ dans les années 55 pas rémunérées pour la tâche qu'elles font, elles contribuent à l'économie du clan, du territoire, de l'espace du village, quoi, par empathie ou par cette forme de vocation à s'occuper des autres, quoi, qui n'est malheureusement encore de nos jours moins valorisé, moins reconnu, qui vaut moins que des métiers plus techniques dans la finance, dans l'ingénierie, etc.
En quelque sorte, il y aurait des pionnières qui se sont imposées par leurs compétences et qui ont permis d'innover dans ces milieux-là.
Donc il y a deux types d'entrées, les femmes qui rentrent sur les métiers du soin, on va dire, éducatrices, et puis il y a des femmes qui étaient surdotées d'un point de vue culturel et sportif, les championnes et filles de moniteurs, etc., qui, elles, passent les barrières des injonctions de genre et rentrent directement sur un diplôme national. Elles sont 1 ou 2% jusqu'à dans les années 75. Elles sont entrepreneuses et elles vont jusqu'à innover, effectivement, dans les propositions du métier. C'est-à-dire qu'elles vont innover pour adapter l'enseignement à un public enfant. Et elles vont apporter, effectivement, du changement de ce point de vue-là, quoi.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ce matin, on a eu des très beaux témoignages de femmes qui investissent des espaces de diversification dans l'innovation, par exemple dans l'écologie, avec Marianne Bréchu qui s'occupe effectivement de ce qu'il adviendra de l'eau de la planète et qui donne effectivement cette coloration-là à sa pratique. Audrey Bison qui propose des situations d'orientation liées à l'apprentissage des enfants pour être sur les champs de neige, effectivement, et proposer quelque chose d'innovant aussi. Puis aujourd'hui, ben, voilà, ces initiatives, elles sont personnelles, elles sont là.
Est-ce que là, on n'est pas quand même encore et toujours en train de redoubler les soi-disant notions de la nature féminine ?
Je pense que la question de l'écologie, elle est partagée par tous et par toutes. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un souci très global qui va permettre l'implication de tous les individus, quel que soit leur sexe, sans construction de catégories. Après, la question d'une adaptation, d'une proposition un peu plus ludique, elle s'adresse aussi aux adultes, hein, dans le cadre de l'orientation. Et là, je pense qu'on dépasse effectivement peut-être la catégorie à laquelle les femmes sont renvoyées. Aujourd'hui, on va dire qu'on est sur un modèle qui est un peu pérenne, c'est-à-dire que les mentalités commence à évoluer, mais on est quand même ancré à toutes ces représentations-là. On voit dans les débats, les discours, qu'on a avancé, certes, mais que l'ancrage est quand même très présent. Après, les résistances, elles sont aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire que voir...
Parce que le modèle est si prégnant qu'il est difficile de s'en débarrasser.
Voir les femmes sont encore plus résistantes que les hommes, parce que reconnaître à un moment qu'on est discriminé, c'est extrêmement douloureux, quoi. Et la prise de conscience, elle est souvent extrêmement tardive, quoi. Les hommes, on va dire qu'il y a une vraie conscience des hommes d'un statut quand même favorable, tout en sachant que ce statut, on va dire, de dominant, c'est pas vraiment le terme que j'aimerais employer, mais là tout de suite j'en ai pas un autre, il est aussi extrêmement coûteux pour eux. C'est-à-dire que la question de la masculinité hégémonique et de la virilité, elle est aussi extrêmement douloureuse pour certains hommes, voire difficile.
Ils ont aussi une pression pour se conformer à la norme et au modèle social.
Exactement. Donc, même si ces hommes reconnaissent que quelque part, ils ont un peu plus à gagner, aujourd'hui, leur question, c'est finalement, est-ce qu'on a vraiment à gagner à continuer à fonctionner dans ces modèles-là ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 90% des hommes incarcérés sont des hommes, que les accidents de voiture sont générés par des hommes, parce qu'à un moment donné, que l'échec scolaire frappe effectivement aussi les petits garçons, parce qu'ils ont une activité à déployer pour montrer effectivement leur virilité. Donc on voit que, Dans finalement la question qu'on pose de la place de la femme, on pose aussi la question de la place de l'homme dans la société.
Et ces questions étudiées sur le domaine sportif féminin est, comment je veux dire, extensible à d'autres domaines sociaux en fait.
Le système de genre, c'est à mieux, il est omniprésent, il existe parce qu'on a catégorisé notre société, mais effectivement dans le sport il va avoir une expression qui va être très particulière parce qu'elle est ancrée dans le biologique. C'est-à-dire que le corps exprime effectivement une différence biologique. Mais par contre, il n'y a aucune raison que sur ces différences biologiques s'ancrent des phénomènes de discrimination. C'est là où il faut vraiment réussir à désemboîter, cette stigmatisation, qui renvoie à des rapports de domination qu'on installe sur une différence biologique et qui n'ont pas lieu d'être,
Merci beaucoup Fabienne Gilenier, ça va me permettre de faire la transition avec Sandrine Jamin-Sanson qui, elle, a étudié dans sa thèse les modifications vestimentaires des pratiquants et pratiquantes sportives. Et est-ce que les distinctions que fait Fabienne Gilenier sont reproductibles sur... on les voit peut-être à travers l'usage médiatique.
On le sait aujourd'hui, le traitement médiatique des sportives est encore soumis à une forme d'injonction, une injonction qui va se concrétiser par une moins grande médiatisation justement de ces sportives, ou alors une injonction qui va être liée à une manière de les présenter, ces sportives. Une manière de les présenter, parfois on parle de leur performance, elle a limite très bien, mais finalement c'est pas là-dessus que le reportage va être forcément, va se centrer. On va parfois se centrer sur les à côté de ces sportives où on leur rappelle que, effectivement elles ont une vie de famille, elles arrivent à jongler avec différentes choses, donc on revient là-dessus. Et puis il y a aussi dans ces injonctions, parfois la question en effet de la tenue vestimentaire qui va se poser et se présenter. Quand on regarde les affiches, les annonces en fait de ces grandes rencontres, ça peut être des championnats du monde ou des rencontres particulièrement importantes, en hand, en basket, souvent les affiches mettent en valeur non pas la compétence sportive, mais rappellent bien que ces sportives sont des femmes particulièrement jolies à regarder.
Voilà, on érotise la communication. Ce que peut-être on a tendance à faire aussi finalement de plus en plus avec les hommes finalement. Est-ce que c'est pas une érotisation globale de la société aussi ?
Le coup des calendriers des dieux du stade, ça correspond exactement à cette idée-là. Mais on est à nouveau en train de renforcer quand même certaines formes de masculinité et là de virilité. Si on prend les dieux du stade, les dieux du stade ne représentent pas, les joueurs de rugby ne représentent pas quand même le commun des mortels des hommes de la planète.
C'est plutôt un modèle dominant, dominateur.
Ce fameux modèle hégémonique qui a été évoqué.
Finalement, cette distinction dans les sports, elle sert pas le sport en lui-même, ni sa pratique, ni la technicité, ni la performance dans les sports, mais qu'il y a derrière et sous-jacente des valeurs de compétition, j'allais dire de compétition économique et de marketing en fait.
Oui, l'apparition du sportswear, ça correspond exactement à ça. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'il était nécessaire à un moment donné de concevoir une tenue qui pouvait rendre la pratique plus efficace, efficiente, à des fins de performance, de rentabiliser. Sauf que ça a marché jusqu'aux années 60, où là, en plus, on est dans un contexte politique où on encense le sport, on veut rendre la grandeur de la France, donc par le biais notamment de la performance sportive. Donc forcément, il va y avoir d'énormes modifications vestimentaires sur la tenue des compétiteurs et des compétitrices. En plus, on est dans une époque où on découvre plein de nouvelles fibres synthétiques. Enfin bon, tout cela va permettre de valoriser ces tenues, mais dans le sens d'une recherche d'amélioration de performance. Les équipes de France de ski, hommes ou femmes, vont bénéficier de ces tenues-là, quoi. Mmh. L'apparition du pantalon fuseau jusqu'au lycra, des combinaisons en lycra, voilà, c'est assez révélateur. Mais en même temps, et surtout à partir des années 60-70, un nouveau marché va voir jour. Un marché qui va être lié à un public qui est avide de pratiquer, mais pas pour la compétition. Juste, on est dans le développement de la société de consommation, de loisirs. Certains commerçants vont sentir le filon et proposer une tenue qui soit adaptée à la pratique, mais qui ne souhaite pas forcément, qui va répondre du coup à d'autres critères. Et des critères notamment sociaux, il s'agit de se détendre, mais quand même, en respectant un certain nombre de valeurs, un certain nombre de codes sociaux, la dimension esthétique va du coup faire partie de ces sportswear. Il s'agit de se détendre, mais on ne portera pas le même survêtement pour pratiquer quand on est un homme ou pour pratiquer quand on est une femme. On ne mettra pas en avant les mêmes atouts. Et ça va se développer. Et ça va être particulièrement de plus en plus flagrant aujourd'hui, jusqu'à l'apparition d'un sportswear qui est spécifique pour les femmes ou pour les hommes. Avec des coloris, il suffit de se balader dans les grands magasins, les distributeurs de vêtements sportifs, d'articles de sport. Certaines marques font des efforts pour neutraliser, mais la plupart du temps, c'est pas le cas, c'est pas ce qui est recherché.
Comment gérer ce paradoxe, finalement, entre peut-être une nécessité de neutraliser un petit peu, comme vous dites, ces codes qui sont des stéréotypes, et puis une autre nécessité qui est celle de se démarquer, de fonder une identité?
C'est vrai que l'idée, c'est pas non plus de rentrer dans l'uniformisation au sens uniforme du terme. On est tous différents et il est important aujourd'hui, en plus, de profiter de la richesse de ce qui est offert en termes de tenue vestimentaire. Moi, c'est surtout, j'attire surtout l'attention sur le fait que proposer par exemple des soutiens-gorge sur des jeunes filles, des toutes petites filles qui ont l'âge d'aller à l'école primaire, c'est pas forcément une nécessité. Et encore, ça commence à bouger, mais certaines couleurs, certains coloris qui étaient beaucoup plus affichés, le rose typiquement, pendant très longtemps, alors ça commence à venir, hein, mais c'était très compliqué pour un petit garçon à l'école primaire et au collège de porter du rose dans sa, dans ce vêtement, quoi. Donc c'est sortir un petit peu de ces marqueurs, oui. C'est encore extrêmement compliqué. Comment en sortir? Alors ça, c'est un vaste débat. Comment on peut réussir à sortir de ces éléments? Je pense que la question, c'est de partir de la base, c'est-à-dire que c'est par l'éducation des enfants. Alors c'est problématique parce que pour éduquer les enfants, il faut que les parents soient un petit peu sensibilisés aux questions, à ces problématiques-là. Mais sur les remarques que l'on peut faire sur la tenue vestimentaire, tiens, t'as vu pourquoi elle est habillée de cette couleur, pourquoi son ventre, pourquoi elle est obligée de montrer un peu, dévoiler un peu sa poitrine. Enfin, c'est, j'ai envie de dire, partir peut-être de l'éducation, d'abord de sensibiliser à, comme tout à l'heure, quand on a parlé de sensibiliser à la question de l'écologie, peut-être à un moment donné aussi se poser des questions sur que représente la tenue vestimentaire. En effet, il y a une dimension identitaire qui est très forte, et chacun est libre de porter ce qu'il veut, et de la même façon, il est important d'accepter de l'autre côté
la liberté de
l'autre. Liberté de l'autre. Ouais. Être libre, ça veut dire oser et assumer sa position. Et c'est jamais très simple, parce qu'en effet, on appartient tous et toutes à un moment donné à un groupe social. Mmh. Et si on veut se faire accepter, bien voir, pour X ou Y raison dans ce groupe social, parfois, on est obligé de jouer avec les codes et les normes, quoi, y compris dans la sphère du travail. Donc
la liberté, ça serait de s'affranchir de ces normes et de ces codes, ou de savoir jouer avec, justement?
Non, je pense qu'au contraire, c'est pas forcément de s'affranchir, mais quand je disais d'assumer ça, c'est de se dire, soit j'y vais de front et je prends une attaque frontale, enfin j'y vais en attaque frontale, soit j'ai compris et puis je peux jouer avec les subtilités quoi, et être un peu voilà, je sais que par moment je peux me permettre de le faire, d'autres moments j'assume autrement la position.
Merci, je vais vous demander peut-être à toutes les deux pour conclure d'essayer de me dire qu'est-ce que apportent vos recherches dans le cadre où nous sommes ici du Festival international des métiers de la montagne.
Je crois que l'objectif
Sandrine Jamin-Sanson, oui.
Pour tel que moi je l'ai perçu, c'était d'amener des éléments de compréhension sur des mécanismes et surtout des enjeux qu'il y avait derrière ici notre thématique, c'était la question de la place des femmes dans les métiers de la montagne quoi, et c'était de montrer que quelque part cela révélait le fonctionnement d'une société, un regard que portait la société et du poids que la société pouvait avoir sur poser sur des individus, en l'occurrence les femmes, mais aussi les hommes, on en a parlé. Mais là, pour le coup, c'était montrer cet aspect-là. Quoi.
Merci. Fabienne Gilonnier, vous voulez un mot de conclusion ?
Oui, simplement, je vais vous donner un exemple. Ce matin, donc, sur la table ronde, Julie Pomagalski est invitée également. Elle était directrice de l'école de ski de Pronège de Méribel. Et à la fin de sa présentation, elle nous a dit « Je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas de monitrice pour venir travailler dans mon école de ski ». Donc aujourd'hui, on a 25% de femmes, 75% d'hommes. Donc voilà, on a effectivement ce matin essayé de dénouer les mécanismes pour bien identifier ce qui relève d'une fatalité, qui n'est pas une fatalité finalement. Les femmes ne viennent pas dans ces métiers pour des raisons qui relèvent effectivement de ce qu'on entend par le régime de genre, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, dans les propositions de ce matin, on voit que Julie, dans le cadre de son école de ski, elle est sur un modèle d'une femme dirigeante, mais qui s'approprie les mêmes outils et les mêmes armes que les hommes dirigeants. Voilà. Donc, c'est toute cette subtilité-là qu'on essaye d'amener dans le milieu qu'on va appeler, qui va se faire décrire comme étant un milieu extrêmement macho, le milieu des remontées mécaniques, le milieu des moniteurs de ski. Et notre combat, ou c'est peut-être pas forcément un combat parce qu'on n'est pas tous les jours en gilet jaune, mais ce qu'on a envie de faire entendre, c'est que finalement il y a la prise en compte de cette diversité qui peut être un vrai plus quoi dans ces milieux de montagne quoi, mais avec effectivement une compréhension des mécanismes quoi.
Et je vous remercie en tous les cas Fabienne Gilonnier et Sandrine Jamin-Sanson d'être venues apporter vos éclairages à nos micros. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.